Nous sommes sur l'archipel du Frioul, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Marseille. Sur ces îles calcaires, à la végétation aride et exposée au vent, nichent chaque année des milliers de goélands leucophées. Karen McCoy est directrice de recherche au CNRS, spécialiste en écologie évolutive au sein du laboratoire MIVEGEC à Montpellier. Avec le projet ECODIS, elle et son équipe cherchent à mieux comprendre les comportements de ces oiseaux marins et l'impact des plastiques sur leur développement.
On travaille ici depuis 3 ans maintenant, où on fait un suivi détaillé de la reproduction sur site.
On est au début du printemps et on est entouré de fleurs ici. Il y a des coquelicots, de la mauve sylvestre, et c'est au milieu de cette végétation que vous cherchez les nids des goélands au sol.
Donc ça, c'est les points GPS de chaque nid.
Donc il faut juste faire attention parce que parfois, on ne voit pas trop bien les nids. C'est le début de la saison de reproduction des goélands. On va choisir des nids d'une manière aléatoire et après on va suivre ces nids jusqu'à l'envol des poussins. Devant le nid numéro 24, donc, il y a 3 œufs et donc les goélands vont produire un maximum de 3 œufs. La taille des œufs et la couleur des œufs sont vraiment très variables d'une nid à l'autre.
Parce que là c'est des œufs qui sont un petit peu plus gros que des œufs de poule, qui sont tachetés et marrons.
Ouais, l'éclosion c'est pas pour tout de suite.
Qu'est-ce qu'on peut trouver autour du nid?
Tout ce qui est les restes de nourriture que le goéland ne peut pas digérer. Donc, c'est formé dans une espèce de pelote que nous, on appelle un bolus. C'est le même type de pelote qu'un chouette va recracher. Et dans cette bolus, on va trouver tous les restes des repas qui peut être très variés, qui peut inclure des os, la végétation. Mais pour la plupart du temps, c'est des bouts de plastique. En tout cas, le goéland est très fort de recracher tout ça. On va collectionner ces bolus autour du nid au fur et à mesure que la saison avance. Et l'idée, c'est de comparer entre nids est-ce qu'il y a certains individus qui vont se nourrir plus sur les décharges et les poubelles que d'autres. Et est-ce qu'on voit une différence en termes de croissance des poussins, la probabilité d'envol de ces individus-là. L'objectif du projet ECODIS, c'est d'essayer de comprendre comment différents types de stress environnemental peuvent impacter la reproduction et provoquer ou pas un mouvement des individus et de comprendre où ils vont aller. Donc les goélands leucophées sont intéressants pour ça parce qu'ils sont fortement exposés au plastique, parce qu'ils vont se nourrir dans les décharges et dans les poubelles.
Et quelles influences ça peut avoir ces plastiques en fait dans la reproduction des goélands?
Ben, on ne sait pas en fait pour l'instant. Donc on sait que quand ils ont fermé certaines des grandes décharges, on voit une baisse du succès de reproduction. Donc pour les goélands, c'est quand même une source de nourriture très importante. Les choses qu'on essaie de voir, c'est de faire la distinction entre qu'est-ce qu'il y a dans les bolus, donc des choses que l'oiseau il a réussi d'enlever de son corps, et qu'est-ce qui passe dans le tube digestif plus loin. Et donc là, on a fait des analyses sur des cadavres de goélands qu'on a ramassés d'une manière opportuniste. On a mesuré la quantité des microplastiques dans le tube digestif. Il y a pas mal de microplastiques qui s'accumulent, mais il n'y a pas des gros morceaux de plastique qui passent. Tout est vraiment filtré par l'estomac, ils arrivent tout recracher. Et est-ce que ça peut avoir un effet sur la croissance? Ben, on ne sait pas encore.
La croissance des poussins?
Oui, la croissance du poussin et peut-être le développement à long terme. Et donc là, on va essayer de capturer l'adulte. On va poser le piège de clapnet sur le nid en espérant que l'individu il est motivé de revenir couver ses œufs. Et peut-être on aura la chance, peut-être pas.
Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous faites des prélèvements?
On fait aussi des prélèvements pour voir le niveau de parasites sanguines. Il y a certains parasites qui sont transmis par les tiques dans les nids. Et donc, du coup, on essaie de voir si les poussins, par exemple, sont exposés à ces parasites. Est-ce qu'il y a un impact sur la croissance et sur la probabilité de l'envol? Et on enchantillonne aussi des tiques dans les nids pour voir qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils peuvent bien injecter au goéland. Et ensuite, donc, on a un programme de bagage. Et sur certains individus, on va aussi poser des balises GPS. Et comme ça, on peut suivre en temps réel les mouvements de cet individu pendant, on espère, 3 ans. Donc on a beaucoup d'informations sur qu'est-ce que l'individu fait pendant la période de reproduction, où est-ce qu'ils vont se nourrir avant d'avoir des poussins, après d'avoir des poussins, etc. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il va faire en hiver? Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'il va aller loin? Voilà. Le goéland lecoffé, c'est un modèle d'étude pour nous qui est très intéressant. C'est une espèce qui est très abondante dans la région. Et une partie très majeure de sa nourriture vient de déchets de l'homme. La taille de la population est directement liée à nos activités, à nous. Et d'une manière surprenante, quand j'ai commencé à travailler sur cette espèce, j'étais très surpris que certaines informations de base sur l'identification étaient très peu connues. Est-ce que les petits qui sont nés sur une île, est-ce qu'ils vont revenir aux mêmes îles pour se reproduire quand ils sont à l'âge d'adulte? En fait, on ne savait pas trop. En fait, il n'y avait pas de suivi très détaillé. Un des aspects qui est très intéressant de ce programme est de vraiment apporter un petit peu plus de connaissances de base sur l'écologie de cette espèce. On le voit tous les jours, on a l'impression de connaître, mais finalement, un peu mal.
Quelles sont vos hypothèses sur ce projet de recherche, vous ?
L'idée éventuelle, c'est qu'il y a une espèce de boucle de rétroaction où un individu, s'il est trop exposé à des parasites, des pathogènes, des polluants, et que ça provoque des échecs de reproduction, à un bout de moment, l'individu va se dire « Ok, ben, c'est pas la peine que je revienne ici pour se reproduire, je vais peut-être aller ailleurs. » Et quand ils sont en échec de reproduction, ils ont du temps. Donc ils vont aller faire un comportement que nous on appelle la prospection, où on va visiter peut-être d'autres colonies, peut-être d'autres sites. Et l'idée c'est quand l'individu va voir s'il y a un meilleur site pour la saison suivante, et il va s'installer. Et c'est lors de ces mouvements-là, où il est en train de prospecter un peu, où il peut éventuellement choper d'autres parasites pathogènes, il peut laisser les choses que lui, il a en lui derrière. Ou bien il peut, maintenant on commence à comprendre de plus en plus, il peut aussi laisser des plastiques. Donc il peut être un porteur de plastique, des décharges à d'autres environnements plus ou moins naturels. En fait, quand les parents crient, les poussins se cachent. Et les poussins sont très forts à se cacher.
Ah mais il y a un poussin là.
Il y a quelques jours.
Les premières éclosions ?
Les premières éclosions qu'on on voit. Donc là, sur ces petites, on va mettre une petite bague temporaire. Comme ça, la prochaine fois qu'on vient, on va pouvoir identifier que c'est bien des poussins de ce nid-là.